Radio Prague, les informations.
Bonjour et bienvenue à l'écoute, Alexis Rosenzweig au micro pour le bulletin dont voici les titres. Les marchés du travail allemand et autrichien ouverts sans restriction aux ressortissants tchèques à partir du 1er mai. L'opposition critique le chef de la diplomatie en raison de la reconnaissance du Kosovo. Et puis la République tchèque va offrir un cheval de race Kladruber au prince William et à son épouse. À partir du 1er mai, c'est donc ce dimanche, les citoyens tchèques pourront travailler en Allemagne et en Autriche sans aucune restriction et sans permis de travail spécial. C'est en effet à partir de cette date que prend fin l'expiration du délai autorisé par la Commission européenne pour limiter l'accès au marché du travail des États membres de l'Union. Ce délai de 7 ans avait été demandé par Berlin et Vienne en 2004 lors de l'élargissement vers l'Est de l'Union européenne, pour faire en sorte de freiner l'arrivée de citoyens des nouveaux États membres sur leur marché du travail. 3 ans après avoir reconnu l'indépendance du Kosovo, le gouvernement tchèque a été critiqué par l'opposition lors de la séance de questions à la Chambre des députés. Le député social-démocrate Jaroslav Foltina a fait savoir qu'il avait honte que son gouvernement ait reconnu le nouvel État. L'agence de presse Četeka précise que la mère de ce député de l'opposition est serbe. Le chef de la diplomatie, Karel Schwarzenberg, a assuré ce député que Prague était au sein de l'Union européenne l'un des plus fidèles alliés de la Serbie. Et il a également souligné qu'il faudrait du temps pour que le Kosovo devienne un état de droit, pas seulement en théorie, mais aussi en pratique. Fin de citation. Le gouvernement tchèque a approuvé ce jeudi le programme national de réforme. Ce programme se rattache à la stratégie Europe 2020 qui concerne l'ensemble de l'Union européenne. Avant la fin du mois d'avril, ce document, dans lequel il est notamment mentionné que les réformes les plus importantes seront réalisées avant 2015, ce document sera envoyé à Bruxelles afin que la Commission européenne puisse donner son avis d'ici à la fin du mois de juin. En mars 2010, la Commission européenne avait présenté sa nouvelle stratégie sur 10 ans destinée à relancer l'économie du continent, et de l'Union plutôt, intitulée Europe 2020. Celle-ci réforme et prolonge la précédente stratégie de Lisbonne par une gouvernance plus étroite au sein de l'Union. Je vous le disais en titre, le cadeau de mariage de la République tchèque au prince William et à Kate Middleton serait, à en croire la presse, un cheval de la race Kladruber. Un de ces très prisés chevaux blancs élevés dans le haras national de la ville de Kladruby nad Labem, c'est en Bohême pas très loin de Prague, et c'est le directeur de ce haras national qui a fourni cette information à la presse en précisant qu'il avait choisi un étalon âgé de 5 ans au pédigré prestigieux. Le gouvernement tchèque n'a pas encore confirmé cette information. La race Kladruber est la race de chevaux tchèques la plus ancienne et aujourd'hui l'une des plus rares. On passe au sport avec un mot de hockey sur glace. Et l'équipe nationale tchèque qui a été battue par le Canada mercredi soir 4-2, c'était à domicile en plus à Prague pour son dernier match de préparation avant le début du championnat du monde en Slovaquie. Ce sera vendredi soir. Pour ce match, les Tchèques disposaient pourtant de la plupart des joueurs vedettes actuellement disponibles et notamment de la star Jaromír Jágr. En Slovaquie, la République tchèque défendra son titre de championne du monde décroché l'année dernière en Allemagne. Pour son premier match de groupe samedi à Bratislava, elle affrontera la Lettonie. La météo, il pleut toujours en République tchèque, des averses passagères et des températures maximales jusqu'à 21 voire 22 degrés. La suite du programme en français de Radio Prague avec Guillaume Narguet dans une poignée de secondes.
Faits et événements en République tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Alexis pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous, chers auditeurs, à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Au sommaire de cette actualité figure tout d'abord la plainte déposée auprès du tribunal de Plzeň, une plainte qui remet en cause la qualité et les caractéristiques de la plus célèbre des bières tchèques, la fameuse Pilsner Urquell. Plus de détails dans quelques instants. Et puis nous parlerons également culture avec le festival du film d'animation Anifest qui se tient actuellement à Teplice dans le nord du pays. Cette année, pour la 10e édition, l'accent a été mis sur la collaboration et les coproductions franco-tchèques comme nous l'entendrons dans la seconde partie de ce journal. Mais en attendant, très bonne écoute à toutes et à tous. La plus célèbre des bières tchèques est-elle bien la bière que la brasserie qui la produit prétend qu'elle est ou que ses consommateurs pensent qu'elle est? Une question qui, jusqu'à récemment encore, n'avait pas lieu d'être posée pour une majorité de Tchèques, jusqu'à ce que la qualité et les caractéristiques de la Pilsner Urquell, brassée depuis plus d'un siècle à Plzeň, en Bohême de l'Ouest, soit remise en cause par un groupe d'amateurs de bière regroupés au sein de l'association baptisée « Pour une bonne bière de Plzeň de 12 degrés ». Cette association a même déposé une plainte contre la brasserie Prazdroj auprès du tribunal de la région de Plzeň pour tromperie du consommateur. L'association reproche concrètement à Prazdroj de vendre son produit comme une bière de 12 degrés alors que sa teneur est en réalité légèrement inférieure. Elle entend donc à ce qu'une décision de justice soit rendue afin que la Pilsner Urquell ne soit plus présentée comme une bière de 12 degrés mais de 11 degrés. Sur l'étiquette des bouteilles des 33 et 50 centilitres vendues dans le commerce, aucune mention n'est cependant faite par la brasserie des 12 degrés, seul le degré d'alcool qui s'élève à 4,4% étant précisé. En revanche, sur son site internet, Prazdroj présente bien la Pilsner Urquell comme une bière de 12 degrés et c'est précisément ce qui gêne Irgi Jacques, le président de l'association pour une bonne bière de Plzeň de 12 degrés.
Le problème est que la Pilsner Urquell est une bière d'élite depuis très longtemps déjà et qu'elle jouit d'une position privilégiée en République tchèque. Depuis un siècle, elle est considérée comme un standard de la véritable bière de 12 degrés. C'est du moins comme cela qu'elle est considérée par le public et une immense majorité des consommateurs. Partout dans les brasseries et restaurants, la Pilsner Urquell est présentée comme une bière de 12 degrés. Pravého 12-stupňového piva.
Mais nous avons constaté sur la base notamment de tests en laboratoire que le degré mentionné ne correspondait pas à la teneur réelle et que celle-ci avait même tendance à diminuer ces 10 dernières années. C'est pourquoi nous affirmons qu'il ne s'agit pas d'une bière de 12 degrés et que Plzeňský Prazdroj ne devrait pas ajouter le chiffre 12 à côté du nom de sa bière ou utiliser cette appellation de 12 degrés. La brasserie devrait respecter la teneur originelle.
En République tchèque, le degré indiqué pour les bières n'indique pas leur degré d'alcool, mais en quelque sorte leur degré de fermentation. La mention de 12 degrés ne signifie donc pas que la bière possède une teneur en alcool de 12%, mais que la teneur de l'extrait sec du moût, substance issue du mélange du malt et du houblon, principaux ingrédients avec l'eau pour la production de la bière, est de 12%. Ainsi, pour obtenir une bière de 12 degrés, les brasseurs tchèques mélangent 12% de moût avec 88% d'eau. Et dans le cas de la Pilsner Urquell, Irgi Jacques affirme que cette teneur est inférieure à 12%. Selon la législation tchèque, les brasseries ne sont pas tenues d'indiquer la teneur en moût sur les étiquettes des bouteilles. Mais selon le malteur de la brasserie Prazdroj, Václav Merka, là n'est pas l'essentiel.
Qui a brassé de la bière sait que la bière est un produit naturel. Les mesures varient. Nous produisons toujours notre bière selon les recettes traditionnelles qui ont été conservées depuis le premier malteur. Nous utilisons les meilleurs ingrédients, du malt, du houblon et de l'eau, rien d'autre. Bien sûr, nous disposons aujourd'hui des équipements les plus modernes et cela nous permet de rendre la production de notre bière la plus précise possible. Mais nous ne produisons pas des boulons non plus. La bière, c'est un travail avec une matière vivante et les levures en font également ce qu'elles veulent.
Mercredi, la juge du tribunal de la région de Plzeň n'a rendu aucune décision sur la plainte déposée et a préféré ajourner le débat, la juge ayant demandé à l'association de compléter quelle décision précise elle réclamait. En attendant, si l'affaire intéresse les médias tchèques, c'est moins le cas des consommateurs de la Pilsner Urquell, comme ceux-ci interrogés dans une brasserie de Prague.
La bière, c'est de la bière. Je bois de la bière de Plzeň depuis plus de 35 ans et je pense qu'elle est toujours aussi bonne qu'avant.
Pour nous, c'est une très bonne bière à boire, c'est l'essentiel. Le reste, les litiges et les procès, ne nous intéressent pas.
Un avis également partagé par ce gérant d'une brasserie pragoise dans laquelle est traditionnellement servi de la Pilsner Urquell.
Les gens sont satisfaits et s'ils ne l'étaient pas, ils le feraient savoir eux-mêmes. Et s'ils sont satisfaits de ce qu'ils boivent, je pense que l'affaire est réglée et qu'il n'y a pas de problème.
Et quelle que soit l'issue de la plainte, la Pilsner Urquell restera, à n'en pas douter, la bière de fierté de tous les Tchèques. On passe à la culture. La 10e édition du festival du film d'animation Anifest a commencé mardi à Teplice, dans le nord-est de la Bohême, une petite ville thermale où cet événement s'est réinstallé il y a 3 ans après avoir quitté Trzebogne dans le sud du pays. Le critique de cinéma Michal Prochaska fait partie des organisateurs. Il revient au micro d'Anna Kubiszta sur les dernières années d'Anifest à Teplice.
En fait, la première année que le festival s'est déménagé à Teplice, c'était l'année où le festival était tenu aussi à Trzebogne, mais du coup aussi d'une moitié à Teplice.
Maintenant, ici, c'est totalement à Teplice. Ça se passe comment alors à Teplice?
Maintenant, c'est à Teplice. Oui, c'est une ville très très différente en fait. C'est une ville de la musique punk, c'est une ville du nord, d'ancienne Sudète. Et aussi d'une vie qui a une sorte de qualité très 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 vivante, très très dure d'une façon sociale par exemple, et aussi très très en envie de la culture.
Cette année, vous présentez donc un forum franco-tchèque. Enfin, vous organisez un forum franco-tchèque dans le cadre du festival Anifest. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous détailler de quoi il s'agit?
En fait, la dixième anniversaire de l'Anifest. Pour cette occasion, on aimerait rappeler aussi la tradition des films d'animation tchèques. Et dans ce cadre-là, on se disait, avant le festival, que ça serait bien aussi de présenter à notre pays de la tradition différente, aussi d'une grande culture de l'animation comme c'est la France, comme une sorte de la deuxième thème qui pourrait créer un dialogue de deux pays, de deux univers d'animation et de deux cinémas. Et pour cette occasion-là, on a invité un théoricien, un pédagogue, Olivier Cotte, qui présente par exemple l'école de l'image Gobelin, aussi la tradition française de l'animation. On a invité aussi 7 producteurs français contemporains qui présentent leur travail et aussi leur façon de fonctionnement dans le cadre sur la scène d'animation. Et finalement, on a essayé d'animer un débat sur la tradition française, comment la tradition française survit jusqu'à présent. Et en même temps, on commence ce débat par rapport à l'animation tchèque qui a été beaucoup plus divisée par la politique, par les époques différentes.
Vous organisez dans le cadre de Anifest aussi des rencontres de producteurs étrangers, français notamment, avec des auteurs d'ici, du groupe de Visegrad. De quoi s'agit-il exactement?
Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de monter un projet de court-métrage en animation, par exemple. Et la seule solution de commencer, de maintenir une sorte de film, de la production de l'animation artistique, aujourd'hui, c'est vraiment relier ou monter des coopérations, des coproductions internationales. Et c'est la solution pour tout le monde. Bien sûr, il y a des pays avec la capacité de production différente. Il y a des pays forts, aussi des pays avec moins de films, moins d'argent. On s'est posé la question, comment ça pourrait fonctionner, par exemple, entre un pays très avancé maintenant, comme c'est la France, et entre les pays de notre région, de Visegrad ou de l'Europe centrale. Et c'est pour ça que nous avons essayé d'inviter les producteurs majeurs de l'animation de France, de court-métrage, et même les 7 personnes, les 7 producteurs très très importants, ont finalement accepté notre invitation et ils sont venus. C'est une possibilité unique pour que les gens de deux côtés, des producteurs tchèques, polonais, hongrois, pourraient rencontrer les producteurs français.
C'était Michal Prochaska, un des organisateurs du festival du film d'animation Anifest à Teplice. Vous pourrez l'entendre plus longuement dans l'émission Culture sans frontières, samedi prochain. Il répondait aux questions d'Anna Kubiszta. Voilà, et c'est déjà la fin de ces faits événements. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie. Aujourd'hui, on passe à la rubrique portrait des Tchèques célèbres et moins célèbres. Aujourd'hui, il s'agit du portrait d'Anna Matsiouchova. Elle a été Roxane dans Cyrano de Bergerac, Lidzi dans Le Faiseur de pluie, Toinette dans Le Malade imaginaire, Martha dans Qui a peur de Virginia Woolf, actrice parmi les plus connues et les plus aimées du public tchèque. Anna Matsiouchova joue actuellement au Rock Café à Prague, dans la pièce française intitulée La femme coquelicot, adaptée du roman éponyme de Noël Châtelet. Elle était l'invitée du magazine préparé par Magdalena Rosinkova. L'émission a été diffusée le 14 octobre 2010.
Les Tchèques célèbres et moins célèbres.
Zajdeš do Štěpaní z prosudy, aby byli pěkný, vyschlý, dobře vokovaný, ale hlavně veliký.
No milost, pane, co já si hlavu nalám, ale do čeho naložím zelí. Okurky tuřín, dám mu na cestu chleba s tvarohem, pojď.
Počkej, Anče, ty nikam nepůjdeš. A Kubo, ty se koukej brzy vrátit.
No ale já musím namazat ten chleba s tvarohem.
On si Kubíček, ten chlebíček taky dovede ukrojit.
C'est grâce à ce rôle d'une jeune fille prénommée Anche, pétillante, bavarde et combative, que Anna Matsiouchova est restée gravée dans la mémoire des enfants tchécoslovaques et de leurs parents. Cette télésérie pour enfants, qui s'intitulait Krkonošské pohádky, les contes des mondes des géants, a été tournée en 1974 et maintes fois rediffusée depuis. En 1974, Anna Matsiouchova a 29 ans, diplômée de la DAMU, l'école de théâtre de Prague, et elle joue déjà au théâtre Divadlo na Vinohradech, une des scènes les plus prestigieuses de la capitale. Elle tourne aussi beaucoup pour la télévision, et sa carrière prend alors son envol. Mais revenons à ses débuts artistiques à Olomouc, en Moravie du Nord. Sa ville est d'origine à laquelle elle est attachée toute sa vie, Anna Matsiouchova.
Mí rodiče byli jenom ochotníci. Měli rádi divadlo a věnovali se mu.
Mes parents faisaient du théâtre en tant qu'amateurs, c'était leur passion. Mon père était agent technique et enseignait parallèlement des langues étrangères. Ma mère a d'abord été employée des chemins de fer avant, plus tard, de devenir bibliothécaire. Ils m'ont transmis leur amour pour le théâtre, sans pour autant me forcer. Un jour, lorsque j'avais 14 ans, mon père m'a tout simplement demandé si je voulais jouer la demoiselle d'honneur dans la pièce « Lucerna » d'Alois Jirásek. Depuis, le théâtre est devenu mon hobby. Mais je n'étais pas ce genre de fille qui dit à 6 ans « je veux être actrice ». Pas du tout. J'étais plutôt tentée par des études d'anglais ou de médecine.
Le destin a voulu que la jeune Hannah réussisse le concours d'entrée à la DAMU, organisé à l'époque comme aujourd'hui, 2 mois environ avant les concours dans les autres écoles supérieures du pays. Mais les débuts de la future star à l'école de théâtre renommée et redoutée de Prague n'ont pas été idylliques. Anna Matsiouchova s'en est souvenue dans une interview.
Je ne voulais pas décevoir mes parents, sinon je serais tout de suite retournée à Olomouc. Nous étions 21 dans ma promotion, mais nous savions qu'à la fin de la première année, 9 d'entre nous allaient devoir partir. J'étais stressée en permanence.
Entre 1965 et 1970, Anna Matsiouchova joue au théâtre Divadlo Zabrano, conçu et dirigé par le célèbre metteur en scène Otomar Krejča. En 1971, la comédienne est engagée au théâtre Divadlo na Vinohradech, déjà cité, un théâtre de répertoire classique et contemporain dont la conception et le style lui conviennent mieux et auquel elle est restée fidèle jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est que dans les années 80 que ce théâtre renommé s'aventure dans la mise en scène de pièces d'auteurs auparavant interdites par la censure communiste, telles que Topol, Aitmatov ou Bulgakov. Dans les années 70, en pleine normalisation, ce n'est évidemment pas encore le cas. Anna Matsiouchova n'a pour sa part jamais adhéré au Parti communiste, tout en étant une des actrices les plus en vue sous l'ancien régime, une position contradictoire, un état d'esprit propre finalement à beaucoup de citoyens de la Tchécoslovaquie communiste. Anna Matsiouchova.
Ta naše práce v divadle byla částečně.
Au théâtre, nous devions certes nous conformer au régime, mais d'un autre côté, nous étions libres. Nous devions aussi nous occuper de nos âmes pour qu'elles ne s'altèrent pas, pour que nous ne renoncions pas à la vie. Vous savez, renoncer à la vie est tellement facile. Vivre sous un régime aussi compliqué tout en cherchant, chacun pour soi, des possibilités de se réaliser est à mon avis beaucoup plus intéressant que de vivre dans une société libre, mais en n'ayant pas de telles possibilités, ou en ayant envie de les chercher.
A možnosti nemít, nebo vůbec nemít chuť je hledat, protože já si totiž myslím, že...
Je pense qu'une liberté sans limite est un fardeau pour ceux qui ne savent pas s'y retrouver, pour ceux qui ne savent pas s'orienter dans leurs pensées, car chacun de nous doit d'abord définir sa liberté personnelle à partir de son âme, de ses besoins, de son caractère, de son éducation et de ses rêves. Ce n'est qu'après qu'il peut s'interroger sur ce qu'il voudrait faire dans la vie, sur ce qu'il pourrait faire pour les autres, sur la manière dont il pourrait faire valoir ses capacités.
La filmographie de Hanamatsu Hova compte une centaine de rôles dans de multiples téléfilms et séries télévisées. Parmi eux, deux personnages qui l'ont particulièrement révélé au grand public. Anche dans Les Contes des Mondes et Géants et Milada Blažejová, une épouse trahie que Hanamatsu Hova a incarnée dans une série tchécoslovaque culte de la fin des années 70, située dans le milieu médical et intitulée Nemocnice na kraji města, titre que l'on pourrait traduire en français comme l'hôpital de banlieue. De nouvelles suites de cette série ont été tournées après la révolution de velours en 2003 et en 2008.
Že to má pokračování, tak to opět je doklad toho, že diváci.
Le fait qu'il y ait deux suites de cette série, c'est un plaisir pour nous tous qui y avons joué. Cela démontre aussi qu'une relation s'établit entre les spectateurs et les personnages, même avec ceux qui ont un caractère problématique, comme Blažejová, cette femme jalouse. Mais je dois dire que pour moi, ça n'a jamais été un personnage négatif. Je l'ai toujours défendu.
Avec le professionnalisme et l'enthousiasme qui lui sont propres, Hanamatsu Hova se lance en 2005 dans le tournage d'une série télévisée sans fin intitulée Ulice, la rue, et diffusée chaque jour sur la chaîne privée Nova. Pendant 5 ans, elle y a incarné l'institutrice Miriam Hejlová, une expérience qu'elle ne regrette pas, bien au contraire.
Toho, čeho jsem se zpočátku bála, že jsem znala jenom synopsy té figury.
Au début, j'avais un peu peur. Je ne savais pas comment le personnage allait évoluer. Bien sûr, j'avais un synopsis. Je savais que j'allais jouer une femme qui vit seule avec son fils. Je connaissais ses traits de caractère. Mais après, toutes les péripéties que cette femme a vécues, ses relations avec ses amis, son fils, c'est devenu très intéressant. J'ai même pu légèrement participer à l'écriture du scénario et apporter ma touche personnelle. C'était un travail formidable.
Takže to byla pro mě krásná profesionální práce.
A zrazená, že on tady není. A ponížená, že já tu jsem. A to nemluvím vůbec o tom, že on tady nastává ženky kávy. Ani nevím, který z nich je můj.
Hanamatsu Hova joue actuellement au Rock Café à Prague dans le spectacle conçu pour une seule comédienne, La Femme Coquelicot. Cette adaptation théâtrale du roman éponyme de Noël Châtelet raconte l'histoire d'un amour tardif. Hanamatsu Hova.
Teď budu citovat mou Martu. Říká, co má vlastně moje staré tělo, jež mě omezuje.
L'héroïne de cette pièce, Marthe, dit à peu près cela. Mon vieux corps qui me limite, parce que chaque maladie, chaque difficulté physique vous limite, qu'a-t-il de commun avec la légèreté de mon âme? Évidemment, quand vous rencontrez quelqu'un qui vous inspire, qui éveille vos sens et vos émotions, c'est à un certain âge une joie sans égale.
Il y a eu dans la vie de Hana Matsuyukova une longue et forte relation amoureuse qui a fondamentalement influencé sa vie de femme et d'artiste. Pendant 20 ans, elle a été la compagne de Yishi Adamira, lui aussi excellent comédien et homme de caractère décédé en 1993. Dotés tous les deux d'un charisme et de voix exceptionnelles, ils ont organisé ensemble des soirées de poésie et ont beaucoup travaillé pour la radio. Hana Matsuyukova n'a pas d'enfant. À 65 ans, elle reste toujours étonnamment belle et rayonnante, avec ses cheveux bruns et ses yeux bleu clair. En me parlant de la femme coquelicot, elle a formulé ce message qui pourrait, je pense, être son credo.
Dans la vie, il ne faudrait jamais se résigner. Même si nous sommes confrontés à des situations parfois très difficiles, nous devrions les surmonter. C'est notre tâche. C'est pour cela que nous sommes nés, je crois.
C'est la fin du bloc actualité préparé par la rédaction française de Radio Prague. Merci encore de votre attention et de votre fidélité et à très bientôt, de nouveau à l'écoute.